Bonjour à tous. J'éprouve le besoin de prier brièvement. Seigneur, notre Dieu, notre Père, donne-moi de ne dire que ce qu'il faut dire ce matin et de laisser de côté ce qui n'a pas d'importance. Et surtout, Seigneur, que mes témoignages attirent l'attention sur toi et pas sur moi, parce que c'est toi qui es le plus important. Je le demande et je te supplie que tu m'exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur la table du fond, c'est anecdotique. J'ai mis une petite valise avec le dernier roman que j'ai écrit, roman d'amour sentimental. Si quelqu'un veut l'acquérir, ben, il peut le prendre dans la valise, c'est au prix de 15 francs, puis il met l'argent dans la boîte qui est là. Voilà. Savez-vous qu'il y a 3 milliards de milliards de tonnes d'eau sur la Terre ? Et que la science, à l'heure actuelle, ne sait pas d'où elle vient. Si vous le savez, vous pouvez me le dire à la fin du culte. Quand je suis venu il y a quelques semaines pour la première partie de la prédication, j'avais plein d'objets par là qui voulaient dire des objets qu'on utilise, qu'on utilise plein d'objets qui nous rendent service, qu'on a payé. Mais on ne comprend pas tout comment ça marche et pourquoi, mais ça marche et ça nous suffit. Et on n'est pas naïf en les utilisant et en les achetant, en accordant nos confiances à ces objets. Simplement, on trouve qu'ils sont nécessaires. Et ce matin, dans la deuxième partie de ma prédication, c'est peut-être une manière de dire comment témoigner aux personnes qui ne croient pas la Bible. Parce qu'on en rencontre tous. Est-ce que c'est naïf de croire et de mettre en pratique ce que l'on ne peut pas expliquer ? La science est encore incapable de nous dire d'où vient l'eau de notre planète. Je vous lis un extrait du psaume 139. Donc, c'est un texte qui a plus de 2000 ans. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Des sciences inexplicables. Les événements sur lesquels, historiques sur lesquels nous fondons notre foi sont pratiquement tous inexplicables. La définition des sciences, selon un document officiel, la science, c'est l'ensemble des connaissances, des travaux au caractère universel ayant pour objet l'étude de faits et de relations vérifiables selon une méthode caractérisée par l'observation, l'expérience, les hypothèses et la déduction. On la divise communément en différents domaines ou disciplines qualifiées de sciences. Les événements sur lesquels sont fondées notre foi ont été observés pratiquement toujours, par de nombreuses personnes. Je pense, l'annonce de la naissance de Jésus, une chorale qui chante, les bergers l'ont entendu, ils étaient plusieurs. La résurrection de Lazare, dans Jean 11, eh bien, ils étaient plusieurs, pour et contre Jésus. Et il a suffi que Jésus, devant un tombeau, dans lequel se trouve un cadavre qui pue, disent « Enlevez la pierre !» Et il dit « Lazare, sort !» Et Lazare est sorti. C'est inexplicable. La résurrection de Jésus. Si je ne lis pas tous ces textes bibliques, c'est pas je suis en édification et pas en évangélisation. La résurrection de Jésus, elle est absolument inexplicable à l'heure actuelle. L'ascension de Jésus est inexplicable. Les anges qui annoncent qu'il reviendra, c'est inexplicable. Dans le livre des Actes, au chapitre 17, lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Athéniens, il dit quelque chose d'étonnant. Déjà, il se réfère à leur poète et tout ça, et pas à l'Ancien Testament. Il dit « Dieu n'est pas loin de nous, mais nous le cherchons à tâtons. » Intéressant. Pas loin, mais on le cherche. Sur l'île de Malte, 276 personnes étaient, avant d'être sur l'île, sur un bateau. Et ils n'avaient plus mangé depuis pas mal de temps. Je vais le lire, ce petit passage, dans Actes 27. Je vous lis qu'un extrait. L'apôtre Paul dit, donc c'est la tempête, hein, on n'avait pas mangé depuis longtemps. C'est Luc qui raconte ça. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril, ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura aucune perte que celle du navire. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Un ange de Dieu apparaît dans la tempête, dans la nuit à Paul et lui parle clairement. D'où vient cet ange? On ne le sait pas. Paul ne perd pas son temps à l'expliquer, mais c'est une réalité, c'est un fait historique. Et 276 personnes ont eu la vie sauve à cause de cet ange qui a clairement dit ce qu'il fallait faire, c'était la réalité. Depuis 2000 ans et plus, des centaines de millions de personnes habitant, oui, j'ai pris ce globe pour ça, habitant sur toute la surface de la terre, parlent à Jésus-Christ et reçoivent de lui des réponses. C'est inexplicable. Des milliers de livres relatent le témoignage, des témoignages de personnes qui ont expérimenté la présence et les interventions très diverses de Dieu dans leur vie. Nous avons l'habitude le matin, chez nous, ma femme et moi, quand on a bu notre café, de lire un feuillet de calendrier. Et cette semaine, bon, oui, le 6 juillet, elle a lu le signe. Et il était dit ceci, « L'Esprit intercède en gémissant d'une manière inexplicable, et Dieu sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des croyants. » Et puis elle dit, « Jésus et son Esprit intercèdent en faveur des chrétiens, et ils sont toujours exaucés. Pour les croyants aussi, prier est fondamental. » Hudson Taylor raconte qu'un médecin missionnaire en Chine se rendit avec un frère chinois dans une banque éloignée, d'une ville éloignée, pour retirer un don important, venu d'Angleterre pour son hôpital. Lors du retour, ils dormirent dans une forêt sur la montagne. Plus tard, un célèbre bandit se fit soigner à l'hôpital missionnaire et raconta au médecin qu'il l'avait vu retirer de l'argent à la banque et que lui et ses acolytes en armes l'avait suivi jusque dans la forêt pour le tuer et lui voler son argent. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait ? Lui demanda le missionnaire. Parce que vous étiez protégés par des soldats. Mais nous n'étions que deux, répondit le missionnaire. Et nous n'avions pas d'armes. Oh non, répliqua le brigand. Pendant votre sommeil, vous étiez protégés par 24 soldats bien armés. Quelques années plus tard, ce missionnaire parla de cette divine protection dans une réunion chrétienne en Angleterre. Un chrétien lui demanda le jour exact de cette protection sur la montagne. « Durant cette nuit, dit le chrétien, Nous étions 24 personnes à prier pour vous dans cette salle. Au mois de juin 1977, nous avons organisé au Stade de Glace, l'ancienne patinoire de Bienne, un événement que nous avons appelé « Fête de l'évangélisation ». J'étais le président de cette manifestation. Et chaque soir, on invitait une autre organisation chrétienne à venir témoigner. Un soir, c'était le soir pour la mission chrétienne pour les pays de l'Est, mais là, on est en cours de la période, il y a le mur de Berlin. Nous avions invité le pasteur Rudolf Taub. C'était une soirée risquée, parce qu'à ce moment-là, parler de ce qui se parlait, de ce qui se passait en Russie, dans les pays communistes, c'était dangereux. J'étais avant l'heure, bien sûr, j'étais le président, j'avais la clé, j'étais sur la patinoire, mais qui n'avait pas de glace, bien sûr, et j'étais là, attendant qu'on ait un mot de prière. Et voilà qu'un homme que je ne connaissais pas s'approche de moi. Je crois qu'il m'a dit son nom. Il me dit, vous êtes M. Geyser, oui, vous êtes le président, oui. Je dois vous informer que j'ai entendu des personnes, des hommes, dire que ce soir, ici, ils allaient troubler et empêcher cette soirée. Donc, il y a un réel risque ce soir. Je vous avertis, c'est tout. Et il est parti. Voilà la nouvelle qu'il m'a donnée. Quelques instants plus tard, je suis allé à la salle de presse, c'était notre lieu de prière, et j'ai prié pour moi-même, avec ce que je venais d'entendre. Et à ce moment-là, j'ai eu une vision, j'en ai pas beaucoup, mais quand il faut, ben ça arrive. Et j'ai vu dans cette vision, alors que j'étais à genoux dans cette salle de presse, une armée d'anges, de soldats de Dieu, qui prenaient position tout autour des gradins du stade de glace. Habillés en blanc, j'ai compris que c'était des soldats que Dieu envoyait. Personne ne les voyait. Je les voyais en vision. À ce moment-là, j'étais tranquille. Je me suis dit, mais personne ne peut passer un tel barrage d'anges de Dieu. Ce sont des soldats, ils sont imbattables. Et la réunion s'est très bien passée dans une paix totale. Quelques mois plus tard, j'ai réalisé une émission à la télévision suisse romande à Genève. Et j'étais le réalisateur et j'avais invité, c'était une soirée où je consacrais au pays de l'Est, et j'avais invité le pasteur Rudolf Taub. Je l'ai interviewé sur le plateau, il y avait aussi à côté de lui un homme qui avait miraculeusement échappé à la mort dans un goulag en Sibérie, Nikolai Simens, qui est mort en 2020 d'ailleurs. Et puis il y avait une traductrice. Une émission qui s'est très bien passée. Au stade de glace, mon rêve était qu'il y ait 2000 personnes, mais il y en avait nettement moins. J'étais triste. Et puis l'émission s'est bien déroulée. Dans une émission suivante, j'en ai fait toute une série, quelqu'un officiellement de la télévision m'a dit, vous savez, votre émission sur les pays de l'Est, elle a eu un énorme succès. Et l'audience officielle, c'est que 200 000 personnes l'ont regardé. 200 000? C'est le centuple des 2 000 que j'aurais espéré. Dieu intervient. Nous sommes partis en Côte d'Ivoire travailler en 81. Nous avions deux enfants, 5 et 9 ans. Avant de partir, on allait me confier donc un studio de production audiovisuelle. Ma femme, elle est là, Anna. Elle était dans le jardin, là, au bas du... Et puis elle pensait, quelque temps avant qu'on parte, avec une crainte bien légitime de ce qui allait nous arriver. Elle pleurait. Elle se dit, mais dans quelle maison on va habiter? Comment je vais m'occuper des enfants? Où je vais trouver à manger? Elle se posait toutes ces questions. Et pour cacher Si quelqu'un la surprenait dans sa tristesse, elle est partie en pleurant contre un petit chemin contre la forêt. Et là, dans une vision, elle a vu une très belle maison. Et le Seigneur lui a dit, c'est la maison que j'ai préparée pour vous. On est parti en Côte d'Ivoire. On avait une voiture, on a acheté une voiture tout à fait ordinaire, une Toyota, mais pas une 4x4. Et puis on roulait dans un pays qu'on ne connaissait pas du tout. Et puis on nous avait dit comment on pouvait trouver où on allait habiter. Et à un moment donné, on montait une colline. J'étais concentré sur l'endroit où je devais passer. Et on passe à côté d'une maison. Et Anna me dit, mais ça, c'est exactement notre maison. Elle était folle de joie. On a encore fait 100 mètres, puis on allait manger chez des missionnaires qui nous attendaient pour le repas. C'est là qu'on a habité pendant 6 ans. Au début, je ne connaissais pas la Côte d'Ivoire. Et j'avais une grande responsabilité avec un travail itinérant pour enregistrer des chants, des émissions radio et tout. Je roulais demain à Djokwe. J'étais seul dans la voiture avec mon matériel professionnel. Et à un moment donné, j'ai eu comme une peur, une crainte, un trouble. Je me suis dit, mais s'il m'arrivait une panne maintenant, mais je ne connais personne, il n'y a pas de garage, il n'y a personne, qu'est-ce que je ferais? Et c'est comme si le Seigneur, permettez l'expression, le Seigneur me dit, tu n'es pas plus loin d'un centimètre de moi que tu ne l'étais quand tu habitais à Tramelan. Partout où tu es et où tu iras, je serai là. J'ai reçu une paix incroyable, inexplicable. J'ai effectué avec cette voiture 34 000 kilomètres en Côte d'Ivoire, dans des endroits pas possibles, sans GPS, sans téléphone, souvent sans carte géographie, sans qu'il y ait de poteau indicateur. Et jamais je me suis trompé. Je suis toujours arrivé à la bonne place. Parfois, les gens disaient, comment tu as fait? Je ne sais pas, je suis là. Plus tard, je suis devenu secrétaire général de la mission biblique en Côte d'Ivoire. Elle s'appelait comme ça. Mais voilà qu'on a voulu répondre à une invitation de l'Union des Églises Baptistes de Haïti. Et j'ai été chargé de préparer notre partenariat mission biblique avec ces églises. Donc, je me suis rendu à Haïti, toujours très dangereux déjà à ce moment-là. Honnêtement, j'avais la frousse. Hein. Et j'étais accompagné du pasteur Espérance Jules Saint, un pasteur haïtien qui avait marié une fille de la région. Peut-être ça dit certaines choses. Et puis le président des églises là-bas, c'était Joseph Elandieu d'Estaing. Et voilà qu'on devait partir dans le nord, ils allaient me faire montrer beaucoup de choses. Et on avait une vieille jeep. On était 3 devant et on avançait. Et puis à un moment donné, le temps s'est gâté. Un véhicule est venu en notre direction, nous a arrêtés. A dit, dépêchez-vous, la pluie va arriver. L'eau va descendre la montagne et la vallée que vous connaissez, il y aura un fleuve qui va passer. Ils le connaissaient, les Haïtiens. Mais à ce moment-là, vous ne pouvez plus passer. Il est d'une telle violence et subie, donc dépêchez-vous de passer avant que le fleuve monte. On a roulé. À un moment donné, on arrive devant le fleuve. Je ne sais pas, 200 mètres de large, un courant d'eau d'une violence incroyable qui passait de là à là. On était là, je vous dis, c'est fini. Hein. Notre chauffeur président sort de la Jeep, il va devant, il bloque le différentiel, c'était une Jeep. Et puis on devait aller là. On voyait de l'autre côté du fleuve des gens qui criaient, ne venez pas, c'est dangereux et tout. Mais notre brave président dit, on essaye. Et au lieu de viser là, il part là. Je dis, mais pourquoi ? Il me dit, le courant va nous déporter, et si Dieu le veut, ben on arrivera là. Il faut être haïtien pour penser comme ça. On est parti comme ça, alors qu'on devait arriver là. Et l'eau était violente. Et alors qu'on était au milieu du fleuve, le moteur y creuve. C'était un diesel. J'ai regardé à côté de moi. L'eau était au niveau de la fenêtre. J'ai regardé mes amis. Ils étaient verts de peur. Moi, je ne sais pas la couleur que j'avais. Hein. C'était la mort garantie. Hein. Notre chauffeur tourne la clé. Le moteur se remet en route. On est parti. On a traversé. On arrive à la bonne place. Quelques semaines plus tard, je suis rentré à la maison, au Fuet, et puis on avait une réunion de prière régulièrement chez nous. Et puis, on avait une dizaine de personnes qui étaient là, différentes églises, et ils me disent, Charles-André, raconte-nous un peu ce qui s'est passé. Je dis, ben, écoutez, j'aurais tellement de choses, mais je vous raconte une chose. Voilà ce qui m'est arrivé un certain après-midi en me déplaçant. On allait mourir, et puis tout à coup, le moteur s'est remis en marche, on est sauvé. Ils me disent, c'était quel jour ? Je dis, ben, c'était l'après-midi de quel jour ? Oui, mais on était en réunion de prière ce soir-là. Et à un moment donné, vous êtes bien d'accord, ils disent, on a prié pour que Dieu protège Charles-André. Si je suis là aujourd'hui, c'est à cause de ça. Je suis devenu pasteur. Oh, il y a encore une chose là, qui s'est passée en Côte d'Ivoire, je vais vous le dire. J'étais confiant que Dieu nous conduisait. Mais voilà qu'avec mon ami Dieyao André, qui était technicien au studio, on partait sur une piste de brousse pour aller enregistrer des chants. À un moment donné, il me dit, arrête-toi, j'ai un papier à donner dans ce village ici à quelqu'un. Je m'arrête, il sort de la voiture, excusez-moi. Et puis, il va donner son papier, et puis les gens disent, qui c'est le gars qui te conduit ? Ben, il dit, c'est le missionnaire, c'est mon chef. Ah bon, dis-lui de sortir de la voiture. Je sors de la voiture. Quelques personnes s'approchent de moi, je ne les connaissais pas. Il y en a un qui me dit, toi, l'homme de Dieu, tu crois en Dieu ? Oui, oui, oui. Je dis, ben évidemment. Hein. Tu pries ton Dieu ? Oui, oui. Tu crois qu'il t'écoute ? Oui, 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 oui. Ben viens, je le suis. Il m'amène vers une case. Devant la case, une natte. Un homme couché sur la natte. Mais il était dans le coma. Il allait mourir, ce gars. Et le gars me dit, tu es un homme de Dieu. Demande à ton bon Dieu de guérir, si tu crois, cet homme. Oui, je crois. Alors, prie. Dieu, mon Père, au nom de Jésus-Christ, je te parle. Tu vois cet homme qui est en train de mourir, tu vois tous ses amis qui sont tristes. Si c'est ta volonté, eh bien, guéris cet homme. Amen. On est parti. Quelques temps plus tard, on repasse dans ce village. Mon ami doit de nouveau s'arrêter. Il me dit, arrête-toi. Bon, il s'arrête, je sors de la voiture pour l'attendre. Un homme s'approche de moi. Il me dit, merci. Ah, merci pourquoi ? Tu ne me reconnais pas ? Ben non. Mais tu as prié pour moi. Et je suis guéri. Ordinaire, hein. Inexplicable, mais c'était comme ça. C'est merveilleux quand même. Voilà. Je dois vraiment regarder ma montre. Hein. Je crois que ce n'est pas naïf de croire en Dieu. C'est inexplicable, mais c'est réel. Faut-il avoir fait des études pour prier ? Non. Faut-il un âge minimum ou maximum pour prier ? Non. Faut-il être dans un endroit précis et une position spéciale. Non, il n'y a pas de quota quotidien pour prier. Prier, ce n'est pas naïf, c'est faire confiance à des sciences inexplicables pour le moment. Les promesses de Dieu sont encore actuelles. Croire l'inexplicable, c'est avoir de l'avance dans plusieurs domaines scientifiques. Un jour, Dieu nous expliquera tout ça. Mais pour le moment, on le sait pas, ce qui ne nous empêche pas de croire. Il y a 15 ans, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé de venir dans cette église, une fois ou l'autre. J'étais un apprenti dessinateur à la Boya. Les adultes m'ont dit, tu es naïf. Tu crois la Bible, c'est des trucs pour l'école du dimanche, pour les gamins. Mais maintenant que tu es dans le monde des adultes, arrête de croire tout ça. Tu es naïf. 60 ans ont passé dans ma vie. Je ne suis plus naïf. J'ai tant de fois vu Dieu intervenir dans ces 60 ans. Ça a changé beaucoup de choses. Et puis, tout de même, je ne suis pas resté dans mon bled. J'ai fait des diplômes, j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait du sport, j'ai fait un post-grade en gestion de projets internationaux, j'ai été expert de la Confédération dans le département des affaires étrangères pour le programme mondial des Suisses à l'étranger, j'ai été rédacteur en chef de 2 magazines. Non, il ne faut plus me dire que je suis naïf. J'ai de l'expérience. Et aujourd'hui, je dis fermement, nous ne sommes pas des naïfs. Nous croyons ce que nous ne pouvons pas encore expliquer. Les savants, les plus grands scientifiques du monde, ne peuvent pas expliquer d'où viennent ces 3 milliards de milliards de tonnes d'eau. Ils cherchent la solution, ils ne l'ont pas. Si on avait attendu d'avoir l'explication, il n'y aurait pas la moindre herbe sur notre planète, il n'y aurait pas la moindre souris, le moindre animal, il n'y aurait pas la moindre personne. Donc on croit depuis des milliers d'années l'inexplicable. Je prie pour rejoindre ma place. Seigneur, tu es extraordinaire. Et ce que tu fais est inexplicable. Mais tu le fais. Tu nous entends. On peut te parler. Tu nous parles. Tu nous conduis. Je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est ce que je vis. C'est ce que nous pouvons tous vivre si nous nous tournons vers toi, notre Père. Que tu sois glorifié par tout ce que tu fais au travers de nous, par grâce. Amen. Je suis obligé, je n'ai pas parlé d'une expérience en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. J'étais pasteur à la Chaux-de-Fonds, que je rejoins. Je suis dans les temps encore. Hein. Une de nos paroissiennes qui a vécu beaucoup de tourments, qui était d'une secte et puis qui est venue dans notre église. Elle habitait un immeuble locatif à la Chaux-de-Fonds. Un coup, elle arrive et puis elle dit, Charles-André, dans mon immeuble, là, j'ai rencontré dans les couloirs, dans les escaliers, une femme, une portugaise qui pleurait. Et je lui ai demandé pourquoi elle pleurait. Elle m'a dit, je suis mariée, nous avons un petit garçon, mais il va très mal. C'est un bébé, il a la leucémie. C'est pas une grippe, hein? Et il souffre beaucoup, il pleure beaucoup, les médecins ne savent pas quoi faire. Il ne va pas vivre comme ça. Hein. Et cette femme vient, elle me dit, Charles-André, j'ai dit à cette femme qu'on pouvait prier, il suffit de demander au pasteur et puis il va intervenir pour le petit garçon. Cette femme me dit, tu veux aller prier un soir, selon la Bible, avec un ancien de l'église, elle me donne l'adresse, pour la guérison de ce petit garçon. Ah ben oui, on obéit. Hein. Après une séance du conseil d'église à 10 heures, on avait annoncé notre... On est allé chez ces gens. Ils nous ont laissé entrer, on s'est mis au salon, on a parlé quelques instants, et puis ils nous ont dit, vous voulez voir notre bébé ? Il dit, non, il dort, il ne faut pas le réveiller. Il dit, non, je suis bien content, parce que c'est tellement triste, souvent il crie la nuit et tout. Il dit, laissez-le tranquille dormir. Il était dans une chambre à côté. Alors on a prié, les seigneurs, il y avait Patrick Coutin, un ancien, et moi. « Seigneur, tu vois ce petit gars-là qui va si mal, la leucémie, dans ta grâce, tu vois que ces gens aimeraient qu'ils guérissent. Alors on te demande au nom de Jésus, c'est ta volonté, ben, de le guérir. Amen. » Et puis on est parti. C'était avant Noël. Ces gens qui étaient portugais sont partis fêter, entre parenthèses, Noël au Portugal. Et comme c'était une famille catholique, je comprends, ils ont dit, notre bébé, il faut qu'il soit baptisé avant de mourir. Hein. Donc, j'ai su ça à leur retour. La dame a dit, on l'a baptisé, et puis on est allé voir un médecin pour encore un examen médical. Et le médecin a dit, mais votre bébé, il est parfaitement en santé. Hein. Il a rien, il va bien, hein. J'ai revu ce petit gars courir dans un centre commercial une année plus tard. C'était trop beau. Dieu répond à nos prières. Où qu'on soit dans le monde, ça n'a aucune importance. Que Dieu soit glorifié pour tout ce qu'il fait au travers de nous. Amen.